RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Merlire et le Merlieur. Plus fort que Jasper, Disaster, Philipsen, meilleur que Bittner, plus Superman qu'Ackermann. Après son succès à Bordeaux, le Belge s'est imposé à Bergerac, un sprinter grand cru qui pourrait encore l'emporter sous peu dans les vignes de Bourgogne. Mais comment les Belges peuvent damer le pion aux Français sur leur terre? Nos cousins et leurs 11 millions d'habitants seulement vont bientôt fêter leur 500e victoire sur les routes du Tour de France. Avec Tom Stills, directeur sportif de la Quick-Step, on essaiera d'avoir quelques réponses à ces questions en compagnie de nos consultants Jérôme Pinault et Jérôme Coppel, mais sans Richard Virin qui vit en famille des moments difficiles et à qui on envoie tout notre soutien avant de le retrouver dans quelques jours. On parlera aussi de la canicule et du peloton en zone rouge demain sur les routes de Corrèze avec un parcours qui sera modifié. On vous donnera toutes les dernières informations qui viennent de tomber. C'est l'after avec donc Tim Merlier. On est à l'heure, que du bonheur.
Précédemment dans l'intégral tour sur RMC.
C'est l'heure du Tour de France, évidemment, sur RMC, comme tous les après-midi, jusqu'au 26 juillet. La route du Tour est la 8e étape aujourd'hui. Nous allons traverser le magnifique département de la Dordogne, entre Périgueux et Bergerac. Le Périgord blanc pour commencer, le Périgord noir pour finir.
Je voulais savoir dans quelle famille tu nous classais, si on était plutôt dans les truffes ou dans les foie gras.
Plutôt dans les truffes, ça, c'est une bande, belle bande de truffes.
98 km encore à parcourir, une trente d'avance pour les trois hommes de tête. Jacob Otrouba, Liam Slok et le français Thibaut Garnalec de l'équipe Total Energy.
On est dans dernière difficulté du jour. Il se passe des choses dans cette montée.
Et 400 mètres encore à parcourir pour les deux hommes de tête. Mais attention, 1 minute 40 derrière, il y a les IF qui sont en train de placer un coup d'accélérateur pour cette
points
pour Casper Asgreen.
Pas ça veut pour dire les points pour...
Il peut se passer quelque chose sur la fin de cette étape. Il ne se passera rien jusqu'à l'arrivée désormais, puisque le peloton est groupé à 34 km de l'arrivée. L'échappée a implosé. En revanche, le peloton est à 1 minute 37 et ça s'est regroupé. Le coup de force, notamment de Casper Asgreen, n'a pas fonctionné.
27 secondes d'avance à 4 km 200 de l'arrivée pour Liam Slok, qui fait de la résistance et qui donne tout ce qu'il a. Il lui en reste encore un peu dans les sacoches, plus grand chose, mais en tous les cas, le parfum de la victoire lui donne une force incroyable.
C'est fini, malheureusement.
Plus rien dans les chaussettes.
RMC, la flamme rouge.
C'est parti, donc Liam Slok n'aura pas réussi sa mission. Il vient d'être mangé par le peloton et les coureurs, notamment de l'équipe Netcompany Ineos. Mathieu Van Der Poel avec Jasper Philipsen dans sa roue. Attention à Olaf Kooi quand même, qui est encore à l'abri. Olaf Kooi, Jasper Philipsen et Tim Merlier également. Tim Merlier à la lutte avec Binyam Girmay. Ça sera le dernier mot très certainement pour Tim Merlier devant Binyam Girmay. Qu'est-ce qu'il est fort ce Tim Merlier. C'est lui le meilleur sprinter actuellement du peloton du Tour de France.
RMC, l'After Tour.
Ah ouais, Tim Merlier, donc, et un hier à Bordeaux, et deux aujourd'hui à Bergerac, qui est sans doute effectivement le plus rapide de ce peloton. Il l'a encore prouvé. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de toute l'équipe de l'After Tour avec Jérôme Pinault. Salut Jérôme. Il fait la sieste.
Petit moteur. Il a eu dû avoir chaud.
Toi, tu es là, Jérôme.
Je suis là, toujours. Bonjour, messieurs. Bonsoir, plutôt.
Eh oui. Et Christophe Cessieux.
On est là, nous, fidèles au poste. On ne va pas déserter comme ça. Ce n'est pas parce que c'est une étape de sprinter et qu'il fait 40 degrés qu'on s'arrête là. On n'est pas comme Jérôme Pinault.
Ça a le temps pour les gros. Hein. Jérôme Pinault, il reçoit, là.
On va évoquer donc cette victoire de la Soudal Quick-Step et de Tim Merlier, la deuxième donc consécutive, avant d'évoquer aussi la Belgique de façon plus large. Et c'est une équipe, Soudal Quick-Step, qui a, j'ai envie de dire, retrouver son ADN, Jérôme. On l'a connu très longtemps, chasser les classiques, avoir des sprinteurs, mais pas sur les grands tours. Et puis, il y a eu l'émergence d'un Belge vraiment excellent, Remco Evenepoel. Et on s'est dit, la couleur et l'esprit, l'état d'esprit de cette équipe va changer. Ils vont aller chercher les grands tours. Et puis, ça n'a pas très bien fonctionné, finalement.
Pas très bien fonctionné. Il a quand même gagné un Tour d'Espagne. Remco Evenepoel, avec son équipe Soudal Quick-Step, fait un podium sur le Tour de France. Donc, c'était quand même plutôt pas mal. Mais c'est vrai que quand on parle de Soudal Quick-Step, c'est les classiques, d'une manière générale, et un train de sprinter. Donc, il y a eu Tom Boonen, bien sûr, la tête de gondole de cette équipe. Après, on a eu Mark Cavendish. Ils ont une vraie culture du sprint dans cette équipe. On l'a toujours dit. Ils savent très bien se placer, ils savent très bien emmener leurs sprinters, etc. Et comme tu l'as dit, Pierre-Yves, après, quand tu as un talent comme Remco Evenepoel, il était obligé finalement de muter, au moins d'essayer d'emmener Remco Evenepoel, un Belge, dans une équipe belge, vers le classement général de la plus grande course du monde. Ça n'a peut-être pas marché comme il l'aurait souhaité, même si je trouve que c'était plutôt pas mal. Et là, on sent qu'il revient. Alors, sur les classiques, ce n'est pas encore ça, ça reviendra peut-être, mais en tout cas, sur les sprints, sur les grands tours, on les retrouve avec Paul Magnier sur le Giro et Tim Merlier ici sur le Tour.
Alors, tu parles de leur ADN, mais moi, je pense que c'est plutôt une équipe opportuniste qui a su, par moment, changer de focus. On se rappelle que Richard Virenque, qui a fait partie de cette équipe, qui l'a quand même ramené deux maillots à poids de meilleur grimpeur.
En chasseur d'étape.
On rappelle que Julien Alaphilippe, là aussi, a été le meilleur grimpeur sous les couleurs de la Quick-Step. Et puis, évidemment, Remco, qui, lui, visait le classement général.
C'était vraiment différent, quand même.
Oui, d'accord, mais...
Grand Tour, c'était pas...
Oui, c'est la tradition, c'est effectivement des coureurs belges, des flahuts qui sont capables de gagner à la Tom Boonen, qui sont capables de gagner des classiques ou des victoires d'étape sur le Tour. Mais de temps en temps, ils ont su un peu changer lorsque les générations n'étaient pas exceptionnelles et lorsque les coureurs à disposition étaient là. Donc voilà, ils ont su changer. Il est très fort. On est à 57 victoires d'étape sur les routes du Tour pour l'équipe Quick-Step depuis 2002 quand même. C'est dingue.
Jérôme Pinault, on te salue, on t'a retrouvé très rapidement.
Oui,
et on
désolé.
Va retrouver... Non, pas de souci, tu vas bien, tu es avec nous, c'est parfait. Et surtout, en notre compagnie, Tom Stills, le directeur sportif de cette équipe Quick-Step, Soudal Quick-Step, un des directeurs sportifs. Bonsoir Tom.
Bonsoir.
Merci beaucoup. Salut, Tom. D'accepter cette interview dans l'After Tour sur RMC. Merci d'être en notre compagnie, vous avez été... un grand cycliste, 9 étapes du Tour de France, notamment remporté le Tour des Flandres également. Beaucoup de succès. Et vous vous retrouvez aujourd'hui avec cette équipe Quick-Step à l'encadrer et notamment ce petit groupe de sprinteurs avec un garçon qui s'impose pour la deuxième journée consécutive. D'abord, racontez-nous la joie, j'imagine, de voir votre coureur capable de s'imposer deux fois de suite.
Oui, quand même. Je pense qu'aujourd'hui, c'était un peu exceptionnel, de manière qu'il a gagné. La bataille qu'on a fait pour prendre un incroyable slow qui était très fort. Alors, c'était un jour quand même qu'on va passer encore beaucoup.
C'est vrai que nous, au commentaire, on a un petit peu douté parce qu'il faisait un sacré numéro devant. Vous, dans les voitures, en regardant les écrans, en écoutant les informations, vous vous êtes dit à un moment, ça va être compliqué de revenir.
Oui, on était un peu nerveux quand même les derniers 15 km parce que Dylan Van Baarle allait vraiment fort et le temps restait le même. Et heureusement aussi, les autres équipes sont un peu paniquées sinon. Je pense qu'il reste devant, surtout parce que les derniers 5 km c'était un peu technique avec les ronds-points et comme ça aussi à ce moment beaucoup de virages et tu prends souvent pas beaucoup du temps sur un trajet comme ça, mais heureusement il était à 20 secondes et la fatigue aussi, alors c'était fait.
Nous sommes en compagnie autour de la table de l'After Tour de Jérôme Coppel et de Jérôme Pinault qui a bien connu cette équipe également. Messieurs, vous avez sans doute des questions. Vas-y Jérôme.
Salut Tom. Écoute, j'étais entendu en début d'étape, c'est toi, on sait le maestro du sprint, c'est toi qui t'occupes de cette équipe et de son côté sprint. Je t'ai entendu en début d'étape dire, les garçons, hier, on a gagné, on a rempli une mission, mais la mission, elle ne s'arrête pas là, donc on reste concentré. À quel point tu as dû remobiliser les troupes hier en disant, c'est pas fini, on peut faire mieux, et on a vu Tim Merlier faire les sprints intermédiaires. Est-ce que maintenant, ça devient un objectif pour Tim, après 2 victoires d'étape, le maillot vert?
Je pense qu'on peut dire ça après la semaine prochaine parce qu'il a encore 2 sprints. Ça va être de plus en plus difficile pour contrôler le groupe. C'est jamais facile, mais quand même, si on peut réussir encore 2 sprints et il fait des bons résultats, à ce moment-là, je pense qu'on peut dire on est encore dans la bataille ou non. Parce que, mais avec Mats Pedersen qui est vraiment concentré sur les sprints intermédiaires, qui peut passer quand même des côtes un peu plus longues que Tim. Alors ça va être encore une bataille pour les sprints massifs pour nous et on ne va pas donner beaucoup d'énergie aussi de les sprints de manière. S'il est encore là, on va le faire. mais on ne va pas contrôler la course pour avoir les sprints intermédiaires. Parce que ça, c'est encore un peu tôt. Avec la chaleur, avec la fatigue, je pense que le premier objectif est de sauver un peu aussi les coureurs. Parce que c'est encore loin, c'est encore 2 semaines. Si la chaleur reste, c'est déjà une chose pour rester dans une bonne santé, je pense.
Question de Jérôme Coppel, Tom.
Oui, Tom, juste avant de vous avoir au téléphone, on parlait de l'ADN de cette équipe Soudal Quick-Step qui a un petit peu changé au cours de ces dernières années avec au début vraiment un pôle classique très fort, toujours avec un bon sprinter. On a parlé de Tom Boonen, Mark Cavendish. Après, on a vu que l'équipe a pris un peu un virage avec Remco Evenepoel. Et là, on sent que la philosophie de l'équipe est en train de revenir. Est-ce que vous avez envie de revenir à l'ADN première de votre équipe, qui est les classiques flandriennes et ardennaises, et le sprint autour de Tim Merlier, et surtout pour nous, en tant que Français, Paul Magnier, bien sûr. Donc, quelle est là, on a l'impression que l'équipe est un peu dans un tournant. Et surtout, la question qui découle de ça, c'est est-ce qu'on verra Paul Magnier l'année prochaine sur le Tour de France, même si Tim Merlier gagne 2 étapes en back-to-back ?
Il y a plein de questions, Tom.
C'est beaucoup quand même. Non, tu fais les résultats avec des coureurs que tu as. Et, il n'y a pas dit Remco Evenepoel non plus dans le peloton, mais si tu as une coureur avec des qualités comme ça dans l'équipe, tu roules quand même pour un classement général qui est complètement différent. Mais s'il n'y a pas un coureur qui est capable de rouler vraiment des résultats que Remco a fait, mais tu as des sprinters et des grimpeurs comme Valentin, tu changes un peu la tactique de l'équipe aussi. Je pense que l'objectif du cyclisme est encore de gagner des étapes ou de gagner quand même. Et ça, c'est surtout dans notre DNA parce qu'on aime de gagner. Et Paul était mon bras, c'est pas un problème, c'est une luxe quand même. Hein. Paul était vraiment un sprinter aussi assez fort qui surtout dans la photo, va être aussi fort dans le tour. Mais oui, on roule avec des coureurs qu'on a. Et heureusement, il y a une Paul Magnier aussi, un Témalif qui sont capables de battre tout. Et comme ça, on peut gagner des étapes.
Tom, est-ce que l'objectif que vous aviez quand Remco était chez vous de remporter un jour le Tour de France, est-ce que cet objectif est complètement abandonné ou vous avez toujours au fond de la tête quand même cet espoir un jour de remporter la plus grande épreuve au monde? C'est vrai que vous avez tout gagné dans toutes les courses, mais pas le maillot jaune sur le Tour de France. Est-ce que ça vous titille quelque part?
Oui, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de coureurs qui peuvent gagner le Tour de France. Je pense que Paul sait que ça, peut-être dans le futur, il peut gagner. Mais je pense que chaque 10 ans, il y a un qui est né pour gagner le Tour de France. Si tu as quelqu'un dans l'équipe, dans les jeunes, tu penses toujours que... Hey, tu fais un trajet, si tu vois les capacités, et après, tu dois entendre si il est bien plus fort chaque année et il est capable de faire un bon classement dans le tour. Mais tu dois être vraiment exceptionnel pour le faire. Et je pense que si tu trouves une chaque 10 années, tu peux être déjà content, ou une de 15 années, parce que c'est vraiment rare que tu trouves un coureur avec des capacités comme ça.
Oui, et Tom, je pense que j'ai fait partie de ce Wolfpack, j'ai fait partie de cette équipe, comme tu dis, le DNA, l'ADN de cette équipe, c'est gagner, gagner, encore gagner. Je pense que c'est historique, c'est construit comme ça, c'est dans l'ADN de cette équipe. Et est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, un jeune coureur qui brille et qui a envie de briller sur les classiques, dans les sprints, il va choisir Soudal Quick-Step, mais s'il est né pour le classement général, on pense notamment à un Lorenzo Fine, on sait que vous avez un gros réseau aussi en Italie, bien, il va choisir une autre équipe parce que, quelque part, l'ADN de l'équipe est et restera gagner des victoires d'étape et gagner des classiques.
Oh, je pense qu'on a les qualités, notre qualité, surtout avec les jeunes, et qu'on laisse encore, comment on dit ça,
mûrir.
Tu dois évoluer comme coureur, tactiquement, oui, le plaisir du vélo, tactiquement. Toutes les choses qui sont importantes, qu'au moment que tu dois être vraiment être fort, que tu as aussi le bagage pour le faire, que tu as l'intelligence pour faire de la course. S'il y a une étape du pavé sur le Tour de France, que tu n'es pas en panique, mais tu sais que tu es capable de le faire. Alors, c'est pour ça que le trajet pour un jeune est pas seulement faire des grandes courses, mais aussi des petites courses en basique, quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, que tu montes en montant, tu viens aussi assez fort, mais toujours avec l'idée qu'il est encore jeune et qu'il doit encore aimer le vélo en 3-4 années. Et on a quand même beaucoup appris avec Remco les dernières années avec lui, avec les stages, avec où on doit aller sur le Tour de France. Et quand même, il est venu chez nous aussi troisième. Alors, on a quand même la capacité, oui, avec tout le monde qui sont capables. Si il y a quelqu'un vient, on a déjà un peu de l'expérience.
Tom Stills, le directeur sportif de l'équipe Soudal Quickstep, est notre invité. Merci encore, Tom, d'être avec nous. Deux petites questions. La première, elle est justement sur ce qu'on évoquait il y a un instant, c'est-à-dire Paul Magnier, qui est la jeunesse. Tim Merlier nous épate parce qu'il a 33 ans. Donc forcément, on imagine que Paul va beaucoup apprendre. Qu'est-ce qui fait la force de Tim Merlier à 33 ans d'être encore le patron là, deux jours de suite, selon vous? Et puis, il y a une donnée qu'on n'a pas, nous, mais que vous avez sûrement. Est-ce que Paul Magnier bat Tom Stills au sprint?
Je suis content que je ne roule pas encore avec le vélo parce que les forces des jeunes sont quand même exceptionnelles aussi.
On rappelle que Tom a quand même gagné 9 étapes sur les routes du Tour de France quand même. Hein,
c'est, oui,
hein,
bien sûr.
Oui, merci.
Mais oui. Qu'est-ce qui est impressionnant pour vous chez Tim Merlier, je le disais, à cet âge-là? C'est aussi le fait d'être venu tard sur la route et d'avoir fait beaucoup de cyclocross avant?
Oui, je pense que Tim Merlier est un vraiment bon exemple que parfois d'avoir pas chance avec un coureur, mais tu vois qu'il chaque année il vient plus fort, ça c'est aussi une qualité. Il dit souvent que quand il est né dans cette époque, quand tout le monde cherche les jeunes, il n'était jamais coureur. Et regarde, il est 33 ans, il est encore vraiment motivé, il est vraiment fort. Et il a beaucoup de l'expérience dans le sprint, comme j'ai dit, quand il reste calme et il choisit son moment. Ça, c'est aussi des qualités qui sont vraiment exceptionnelles. Ça ne veut pas dire que tous les coureurs de 33 ans vont être avec les mêmes qualités que Tim, mais avec lui, c'est vraiment impressionnant. Et il aussi, il a le métier, il est 33 ans et ce n'est pas un jeune qui de 23 qui panique de tout le temps. Il est vraiment toujours relax, aussi quand il a perdu. Ça, c'est quand même peut-être le plus important.
L'image tout à l'heure était très impressionnante. Il était allongé dans l'escalier. On a senti qu'il mettait beaucoup de temps à récupérer après cet effort cardio aussi du sprint. C'était particulièrement dur, la chaleur a ajouté aujourd'hui aussi à la difficulté.
Oui, c'est vraiment dur. Je pense que, et félicitations à Valentin qui est venu pour les bidons les derniers 20 km. Et il était devant, il est revenu pour prendre les autres bidons et donner aux ses équipiers, vraiment chapeau. Et ça souvent fait la différence parce que la chaleur c'est vraiment horrible maintenant. Et la différence, s'il manque un ravito, c'est déjà pas facile de tenir la force et de rester bien dans la course et bien concentré. Alors c'est aussi un petit victoire pour Valentin aussi parce qu'il a vraiment donner des vidéos au moment juste.
Tom, une dernière question. En tant qu'ancien grand sprinteur, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir aujourd'hui en tant que directeur sportif? C'est quand Valentin Paré-Peintre s'impose au Ventoux ou lorsque vos successeurs au sprint, comme Tim Merlier, remportent des étapes au sprint? C'est quoi les plus belles émotions que vous vivez en tant que DS?
Les victoires, quand même, une victoire et une victoire. On est toujours incroyable content qu'on a qu'il a gagné ou qui gagne, mais il y a comme aujourd'hui que si toute l'équipe fait la bataille pour prendre l'équipe de devant et la manière qu'il a gagné, mais c'est aussi sûr que l'année passée au Ventoux on était, ouais, il y a des moments qui sont quand même qui restent dans la mémoire et c'est surtout le Ventoux avec le public, surtout avec Valentin qui a un très beau mec, qui est vraiment un bon équipier, ça reste, c'est sûr, ça reste encore dans la mémoire pour toujours.
Tom Stiels, c'était aujourd'hui la 498e victoire belge sur le Tour de France. Vous êtes tout près de la 500e. On peut imaginer quelle sera pour vous dans votre équipe. C'est particulier, ça sera notre deuxième débat dans quelques instants sur vous, nos voisins, 11 millions d'habitants, qui nous damaient un peu le pion. Vous étiez 31, il y avait 31 coureurs belges au départ contre 30 Français. Comment vous expliquez ça, que vous soyez capable d'avoir ces performances en Belgique? La formation est pour beaucoup. Quelles sont les petites informations que vous pouvez nous donner en ouverture de ce débat?
Ça commence avec les jeunes, hein. Ça commence d'avoir des courses, ça commence avec de donner les jeunes la possibilité de faire le cyclisme. Ça vient de plus en plus difficile. J'ai parlé avec Sanini qui a dit en Italie, c'est vraiment pas facile d'organiser les courses ou de motiver les jeunes pour l'entraîner. C'est peut-être un problème un peu partout. Mais heureusement, en Belgique, il y a encore des régions que tu peux entraîner et donner les jeunes la possibilité de rouler avec le vélo. Il y a quand même aussi beaucoup des autres sports maintenant. Mais c'est aussi les champions qui donnent aussi un idéal pour les jeunes pour commencer avec les vélos. Et ça, c'est les champions quand même, ils donnent aussi beaucoup de morale à les jeunes et ça reste aussi important.
Merci beaucoup, Tom Stiels. Dernière question, est-ce que vous êtes supporter de l'équipe de France de foot
maintenant que les Diables Rouges sont partis?
Belgique et...
c'est mauvais les réseaux, je n'ai pas bien compris.
Excellent. Merci beaucoup Tom. On vous souhaite évidemment une bonne suite de Tour de France et la 500e victoire pour les Belges d'ici peu. Merci beaucoup Tom.
Ok, merci, bonne chance. Oui.
Merci beaucoup. Le directeur sportif, on adore aussi l'humour des Belges et il nous le prouve encore. Tom, avec cette dernière question, Maria, quand même, il faut l'expliquer. C'est belge, je disais, donc bientôt 500 victoires. Alors tu vas peut-être nous le dire, on a peut-être encore plus de victoires sur le Tour de France, mais ils grignotent et ces dernières années, ils sont devant, quoi.
Bah largement, et puis à cette allure-là, ils vont bientôt nous rattraper. Bon, les Français, on est quand même largement devant, quasiment une victoire sur trois. On est à 704 victoires, alors... Ça compte pas les contre-la-montre par équipe, c'est un peu, il y a plein de chiffres différents sur.
Et puis surtout les premiers tours de France, les Français gagnaient beaucoup.
Exactement.
Il y avait quatre nationalités au départ du tour, hein, quand même au tout départ.
Il y avait déjà les Belges.
Il y avait déjà les Belges.
Mais on gagnait forcément, beaucoup plus. Mais la Belgique se rapproche énormément. Hein. Il serait pas même impossible de les voir nous passer devant. 6 victoires belges l'année dernière, par exemple, une seule victoire française. Donc si on lit ça sur un nombre d'années. Non,
c'est énorme.
Ah oui, c'est énorme. Oui.
C'est pour ça qu'il faut que Paul Magny arrive, quoi. Il faut que
un Tim Merlier, un Jasper Philipsen, c'est des gars qui leur rapportent énormément de victoires. Alors la moisson belge, elle a commencé pour un petit aspect historique lors de la première étape de l'édition 1909 avec Cyril Van Overt qui remporte la première étape pour la Belgique. Évidemment, Eddy Merckx est le plus gros contributeur de victoires pour la Belgique avec 34 victoires. Et pour vous donner un petit classement derrière la France, évidemment première, la Belgique deuxième, c'est l'Italie, 271 victoires. Là, ils ont Jonathan Milan qui leur en a rapporté quelques-unes, notamment l'année dernière. Mais il y a des nations pour qui c'est un peu plus difficile. Par exemple, les Espagnols, ils n'ont pas gagné une étape sur le Tour de France depuis Carlos Rodriguez. C'était la 14e étape du Tour de France 2023. Donc ça commence à dater pour l'Espagne, qui est quand même un pays de vélo.
Et les Italiens, ça doit faire un moment aussi.
En tout cas, on les tape en nombre de victoires finales dans le Tour de France. 36 victoires pour les Français, 18 pour les Belges seulement. On est au double, quasiment au double.
Au double. Oui, c'est sûr. Non, mais sur les victoires, c'est les grands tours, quoi. C'est vrai que ça confirme ce qu'on disait, cet ADN. Jérôme Pinault, toi qui as connu aussi cet environnement, la Belgique, cette équipe, quelles sont les explications qu'on peut donner aussi à cette force belge par rapport à la France?
C'est une culture et surtout c'est un pays et une équipe Quick-Step qui aime gagner. Moi, quand je suis arrivé là-bas, on a tout de suite compris, c'est la gagne et pas deuxième. J'ai un exemple à vous donner, je fais la flèche Brabançonne, j'arrive avec quatre coureurs, dont Anthony Gélin, mon pote, qui était dans la même équipe que moi l'année d'avant. On arrive pour la gagne, je sprint et je ne serre pas les barrières. Et quand j'arrive au camion, c'est Anthony qui gagne, moi je fais deux, j'arrive au camion, Patrick était là, Patrick Lefebvre, et... Il me dit « Pourquoi t'as pas serré à droite ?» Et j'ai dit « C'est mon copain, je peux pas. » Il n'y a pas de copains pour gagner une course chez Quick-Step. C'est après les copains. Voilà la réponse. Et là, tu as compris. Tu rentres dans le bain, tu dis faire deux, ça ne sert à rien. Dans une autre équipe, on m'aurait dit Flèche Brabantione, deuxième, c'est génial. Non, là, tu as perdu. Et donc, tu apprends ça. Et puis en Belgique, il y a les courses dans tous les villages. On en parlait hier encore à table avec Jérôme. On en parlait avec Bernard Hino hier après-midi dans le studio. Il n'y a plus de courses de village en France, alors qu'en Belgique, il y a des courses tous les week-ends. On fait 5, Kermesse. 10, 15 kilomètres et on fait des courses. Et il y a une culture. Le vélo est quasiment le sport préféré des Belges avec le football. Mais une course comme le Tour des Flandres est plus importante qu'une finale de championnat ou qu'un match important dans le championnat de Belgique. C'est une culture et c'est dans cette équipe Quick-Step qui a une image, puisqu'en Belgique, tous les gamins qui passent professionnels, en tout cas 80%, veulent aller chez Quick-Step. Ils veulent aller dans cette grande équipe qu'a formé les Mousseou, les Bonnen, les Taffy, les Bettini, les Gardzelli. Tous ces coureurs-là sont passés dans cette équipe. Et effectivement, ça part de là et derrière, eh bien, ça crée une émulation. Et les jeunes ont un niveau exceptionnel chez les Belges. En général, chez les Belges, on travaille bien en plus après pour former que ce soit les grimpeurs ou les rouleurs et les coureurs de classique.
Jérôme Coppel, toi, quand tu étais dans le peloton, il y avait un regard particulier pour cette équipe, pour les Belges en général ?
Alors, surtout pour cette équipe. Pour les Belges en général, oui et non, mais il y a des Belges un peu dans toutes les équipes. Mais c'est vrai que cette équipe, elle faisait peur, surtout sur les classiques ou en chassant les étapes. Donc, c'est sûr que quand tu voyais l'équipe Quick-Step, c'est se remettre un peu dans le contexte de l'époque. L'équipe Quick-Step de l'époque, elle domine le peloton mondial. Donc oui, elle faisait peur. Mais pour expliquer un peu cette différence, il faut simplement regarder le pays aussi. Le pays, il n'a pas des grands cols, donc pour trouver des grimpeurs, alors vous allez me dire, on a des Hollandais qui ont déjà gagné le Tour, etc. Bien sûr, mais eux, il y a beaucoup de courses, il y a toujours du vent, il y a toujours des pavés, il y a sa bordure, etc. Techniquement, déjà, les Belges, chez les jeunes, ils ont un bagage technique qui est bien plus élevé que chez les Français, par exemple.
Mais des difficultés à avoir des grimpeurs, et donc pour gagner les grands tours.
Voilà, bien sûr. Et après, tu dois, alors tu as des exceptions, des Remco Evenepoel, oui, alors bien sûr, il y en a toujours, tu as toujours des exceptions, mais tu as forcément, sur le nombre par rapport à la... au pays, comment il est construit, etc., tu as forcément plus de chances d'avoir des mecs bons sur les classiques que bons en haut d'un Tourmalet, par exemple.
Mais j'ai envie de dire, nous, en France, on a l'avantage d'avoir tous ces paysages.
Mais on n'a pas de course. On n'a pas de course. Donc, comment, avant, il y avait, alors ça existe encore, les plages vendéennes, mais des courses à bordure. Moi, j'étais, et ça dépend beaucoup d'où tu es en France. La France, c'est un grand pays. J'étais, disons, zone sud-est. Moi, je faisais pas de course où il y avait du vent. Je me déplaçais en Bretagne, je savais pas ce que c'était le vent. Je prenais le premier coup de vent, hop, par la fenêtre, et tu t'avais fait 10 heures de bagnole et tu avais fait 30 kilos de vélo. Et puis les Bretons, c'était un peu l'inverse. Ils venaient, nous, on avait la classique des Alpes, que Paul Sexas a gagné, etc. Donc le pays est aussi tellement grand que finalement, même à l'intérieur, nous, de notre pays, on peut pas se déplacer partout pour avoir notre bagage technique qui est complet. Ouais. Et tu t'affrontes très peu, à part sur les championnats de France, finalement, tu affrontes très peu les Bretons quand tu es dans le sud. Est, etc. Donc voilà, peut-être notre pays, on a tout, mais on n'a pas assez de courses pour, enfin, de regrouper toutes les courses pour avoir les meilleurs au même endroit.
On a eu un problème aussi générationnel et aussi organisationnel, parce qu'une époque, rappelle-toi, Gégé, chez les jeunes, chez les juniors et chez les espoirs, nos dirigeants, Bernard Bourreau, notre maître à tous, puis Charlie Bérard, se plaignaient qu'il y avait trop de courses par étape en France. Pourquoi ? Parce que notre exemple, c'est le Tour de France. Et ben dans les pays comme ça, c'est le Tour des Flandres. Ils se plaignaient, trop de courses par étape. Pourquoi ? Une course par étape, ça veut dire une étape disputée, la première à bloc, et après, c'est déjà dans le sens tactique. Il n'y avait pas assez de courses d'un jour où c'est all-in toute la journée et il n'y a qu'un vainqueur. Et en général, ça crée des garçons. Quand tu fais que des classiques et que des courses d'un jour, il n'y a qu'un vainqueur à la fin. Alors que quand tu fais des courses par étapes, chacun a son rôle et on rentre déjà dans un sens tactique et on crée et on étouffe l'envie de gagner chez un jeune. Et ça a été longtemps un problème en France. Depuis patatras, c'est plus qu'il n'y a plus de courses par équipe, par étape ou plus de classiques, s'il n'y a plus de courses du tout. Et ça devient un vrai problème.
Et je vous propose, pour conclure ce débat très intéressant, là on a parlé de géographie et c'est vrai que ça joue forcément sur le profil des coureurs, le profil des équipes aussi, mais d'écouter donc les deux garçons belges du jour qui ont animé cette étape. D'abord le vainqueur, Tim Merlier, sur cette victoire, cette deuxième victoire, et puis le maillot vert avec Kevin Morand.
Dans le dernier virage, je pensais que c'était fini, j'étais déçu, mais tu sais jamais, c'est encore possible le top 5. Et je vois 250 mètres, je dis allez, c'était assez pour gagner. J'avais un rêve de rouler une fois ici dans le tour avec le maillot vert, mais Mats est tellement fort. Et je pense demain, il va de nouveau prendre les points. Alors ça va être difficile de rouler une fois dedans, mais ce n'est pas un objectif parce que je grimpe pour l'instant pas assez bon pour le maillot vert.
Bon, c'est pas encore un objectif, le maillot vert, mais on verra ce qui se passe dans les prochains jours. Et puis, celui qui a animé aussi et qui était très, très fort, Jérôme Coppel, c'est donc Liam Schlock, qui était dans cette échappée de trois garçons, belge, lui aussi.
De l'autre équipe belge.
Voilà, l'autre équipe belge, l'équipe Lotto. Et on a cru à un moment qu'il allait réussir sa mission, son défi.
Hein. Alors là, on a vu deux numéros aujourd'hui. Le sprint de Tim Merlier, parce que c'est vraiment un numéro qui nous a fait, et celui de Schlock. C'est vraiment impressionnant. Alors, autant à 25 km, 30 km de l'arrivée, si vous m'aviez demandé, c'était aucune chance, il n'y avait pas de problème. Et après, tout seul, enfin, il est parti à 40 km de l'arrivée et pendant 20 km, il a réussi à maintenir le même écart. Et il y a ce fameux théorème, là, une minute tous les 10 km, bah, il était pile poil dans les temps de passage, dans les 10 derniers kilomètres. Malheureusement, le profil du parcours, ce n'était pas à son avantage, des grandes lignes droites, légèrement faux plat montant, mais il a fait vraiment un vrai, vrai numéro. Alors, il ne sort pas de nulle part non plus. On a dit au Tour de Suisse, sa première victoire un peu rocambolesque, mais gagné quand même. Donc, c'est vraiment un bon coureur et comme on a pu entendre Tom Steele, même dans les voitures, ils ont eu peur finalement. Il a dit, il y a des équipes qui ont paniqué. Heureusement, ils sont venus nous aider. Mais ça s'est joué à très peu de choses finalement. Il se fait reprendre, grosso modo, à 2 km. Mais s'il y a un pépin dans le peloton, on a vu que c'était un peu tortueux le final. Il aurait très bien pu l'emporter. Et ça devrait donner des idées aux baroudeurs pour avoir des échappées un peu plus conséquentes. Parce qu'un coureur un peu plus fort dans cette échappée, c'est sans faire injure à ses deux compagnons d'échappée, mais un coureur un peu plus fort du niveau de Schlock, et ça va au bout.
C'est ça, Jérôme.
Un Casper Asgreen qui a tenté sur le final, il l'accompagne, je ne suis pas sûr qu'il les revoit.
Ah, c'est clair, ou un Abrahamsen, des coureurs comme ça, là, solides rouleurs.
C'est quand même amusant, le Tour de France avance, et puis il y a une échappée d'un gars tout seul, Baptiste Westhoffer. Le lendemain, ils sont deux, maintenant ils sont trois. On a le sentiment, Jérôme Pinault, que peut-être les équipes commencent à se dire on va aller la chercher quand même, la victoire d'étape à un moment. Quoi.
Bah, évidemment, en plus, le temps passe avec... plus les étapes passent, moins il y a de possibilités. Et puis on s'aperçoit que dans le très dur, on est battu. Dans les sprints, on est battu. Sur le moyennement dur, on est battu. Donc on lance quelques cartes. Et puis l'exemple de Schlock aujourd'hui va donner des envies à d'autres. Parce qu'ils vont se dire finalement, résister à ce peloton et à ces équipes de sprinteurs, c'est possible. Surtout que la hiérarchie dans le sprint est en train de se mettre en place. Et que quand il y a une équipe et un sprinteur, notamment qu'on a gagné deux, on va éviter d'aller les aider. On va dire débrouillez-vous. Donc, on va en mettre un devant. Et c'est là où il faut qu'il y ait de plus en plus de prétendants. Et on le verra, je pense, dans la prochaine étape vraiment dite de sprint de plaine. Il y aura beaucoup plus d'attaques qu'il n'y a eu aujourd'hui parce que tout le monde va se rappeler ce qui s'est passé aujourd'hui dans le final.
Après, les moelleux, comme les appelle Jérôme Coppel, ils se réservent pour des étapes qui leur correspondent un peu mieux. Je pense que demain, par exemple, les Abrahamsen dont vous parliez, tous ces garçons-là qui sont d'un niveau quand même supérieur, ils sont un gap au-dessus, on risque de les voir un peu plus. Mais là, sur une étape comme ça, ils se disent est-ce que c'est vraiment jouable d'aller chercher la victoire ou est-ce qu'il ne faut pas que je me garde un peu de force pour le lendemain ?
Pour Abrahamsen, par exemple, je suis complètement d'accord avec toi. Pour l'exemple qu'a pris GG Casper Asgreen, je suis moins d'accord. Par exemple, je pense que demain, Casper Asgreen a moins de chances de l'emporter
aujourd'hui.
Ouais. Casper Asgreen des grandes années non plus. C'est un excellent rouleur. Sur une étape comme demain, il y aura du monde qui va vouloir aller dans l'échappée. Il va forcément tomber sur un mec ou deux plus fort que lui. Par contre, aujourd'hui, avec ses qualités de finisseur, il a gagné une étape que personne l'imaginait gagner, qui était destinée aux sprinteurs il y a quelques années sur le Tour. Voilà, ça aurait été un bon profil. Et ça fait deux fois qu'il sort un peu dans le final derrière Baptiste Westhoffer quand il est en solitaire. C'est un autre choix tactique de vouloir anticiper dans un deuxième temps, mais ça devient compliqué de faire ça. Je pense que tu as plus de chances de partir dès le départ et de jouer avec le peloton pour les piéger. Donc un coureur comme ça, aujourd'hui, ça, il aurait été parfait dans l'échappée.
Liam Schlock, 25 ans, donc a fait un numéro à l'avant. Et on l'écoute tout de suite, évidemment, combatif du jour.
Bien sûr que j'avais l'espoir de gagner en étant aussi proche d'y arriver, puisqu'en fin de course, à 10 km de l'arrivée, j'avais encore 50 secondes ou une minute d'avance. Normalement, c'est possible d'y arriver. Il y a eu un peu de vent, quelques bosses sur la grande route dans le final, et j'ai perdu beaucoup de temps, c'est dommage. J'avais vu l'occasion de partir seul au sommet de la côte, j'ai pensé que c'était seulement 40 km à courir. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais.
Exactement, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Dans quelques instants, la suite de l'After Tour, le Tour de France en zone rouge, on va vous en parler. Les mesures prises par ASO avec la canicule et cette zone rouge du côté de la Corrèze, un département donc, qui sera sous la chaleur une nouvelle fois. On évoque ça avec toute l'équipe de l'After Tour. On parlera de l'étape de demain et puis on aura aussi les auditeurs qui posent les questions à nos consultants. A tout de suite.
RMC, l'After Tour.
RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
La zone rouge, du rouge, du jaune pour les Belges et pour les Français, du rouge avec la canicule qui se poursuit sur les routes du Tour de France, sur une grande partie de la France. Pour tous les habitants de l'Hexagone et le peloton, là, va être dans des conditions à nouveau très très chaudes dans cette étape de demain entre Malemort et Ussel, la route du Tour sur les routes de Corrèze. Et donc... une décision qui a été prise par le Tour de France ce soir. Romain Asselin étant notre compagnie reporter de l'équipe RMC Sport, tu as eu donc ces dernières infos qui sont tombées il y a quelques minutes après l'arrivée.
Après l'arrivée, oui, effectivement.
De cette étape, on savait qu'il y avait en cas de département en zone rouge des possibilités qui pouvaient être prises par les préfets. ASO a pris déjà des décisions.
Oui, alors on pourra parler peut-être de mesurettes pour certains. On aurait pu s'attendre peut-être à une annulation d'étape. Quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur en début de Tour de France, on se souvient que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait envoyé un courrier à tous les préfets concernés par le parcours du Tour de France pour leur dire « Si jamais demain la vigilance rouge est activée dans votre département, vous avez la possibilité, mais de manière... j'insiste, hein, exceptionnel, de décider d'une annulation en fonction de la possibilité ou non d'assurer un service de sécurité et sanitaire d'ampleur suffisante pour garantir et la sécurité des coureurs et la sécurité, évidemment, du public présent en nombre sur les routes du Tour de France. Il y avait d'autres mesures possibles pour les préfets, en l'occurrence fermer certains espaces publics ou rétrécir l'étape. C'est la décision qui a été prise donc ce samedi après-midi par le préfet de Corrèze qui a décidé de rétrécir de 30 km. Voilà, on rabote de 30 km l'étape en tout début d'étape, c'est-à-dire que le départ est maintenu à 13h45, défilé de Brive, et là, au lieu de faire une boucle dans le sud de Brive et de passer par 8 communes, dont certaines communes classées plus beaux villages de France, et c'est là que ça risque de râler demain, effectivement, parce que c'est une perte économique, mais c'est un autre sujet. Au lieu de faire cette boucle-là, on va couper directement vers une départementale et rejoindre la commune de Lanteuil. Donc pas de changement sur le plan sportif, si ce n'est que l'étape donc est rabotée de 30 km, mais on va emprunter pour le reste de l'étape le même parcours, arriver à Ussel à la même heure, à peu près, hein, aux alentours de 17h30. Je vous propose quand même d'écouter Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, qui s'est exprimé à ce sujet, donc juste après l'arrivée.
Nous avons décidé avec le préfet, en accord total avec les autorités qui nous permettent d'organiser le Tour de France, de réduire, vous avez peut-être vu sur la carte du Tour, il y a une sorte de boucle vers le sud, etc. Et on coupera directement et on aura une étape beaucoup plus courte, ça ne changera rien à l'aspect sportif, parce que c'est vraiment remarquable et redoutable. En revanche, ça fera 30 km de moins. Et d'ailleurs, quand Thierry Gouvenou l'a annoncé à Pogacar tout à l'heure, il lui a dit merci. Et là, on parle de ce qui se fait d'une adaptation au quotidien. Après, réveiller les coureurs à 5 heures du matin, ça me semble un peu compliqué. Bien évidemment, pour les spectateurs, parce que c'est finalement presque le plus important, du bon sens encore, il faut faire attention, qu'il faut avoir un chapeau, qu'il faut avoir quelque chose sur la tête, qu'il faut avoir de l'eau, qu'il faut se mettre à l'ombre.
Oui, je ne suis pas sûr que Pogacar soit le seul à avoir dit merci d'ailleurs, parce que c'est une des images marquantes hein, de cette arrivée à Bergerac. Tim Merlier et Binyam Girma qui sont allés se réfugier dans le centre de presse qui était situé à environ 150 mètres de l'arrivée, climatisé Et c'est des images rares qu'on voit parce qu'on sent les coureurs forcément usés par ces jours de chaleur. Hein. Maintenant, ça fait une dizaine de jours hein, qu'ils sont confrontés à ces fortes chaleurs. Et la journée de repos arrive, mais on les sent un peu sur les jantes.
Donc si vous habitez à Turenne, à Collonges-la-Rouge, à Messac, vous ne verrez pas demain pas. Le Tour de France. N'y allez pas, effectivement. Collonges-la-Rouge, village magnifique, donc il ne sera pas traversé par le Tour de France. Ça change un peu, pour moi, l'aspect sportif, parce qu'entre Lenteuil et Bénat, il y a 7 km et c'est le sprint intermédiaire. Donc le départ va être donné et au bout de 7 km, si ça n'a pas changé, je n'ai pas l'information comme quoi
pas pour l'instant, a été ça,
déplacé.
Ah oui.
Ça va partir.
Sprint au bout de 7 km.
Ça va sprinter pendant 7 km, en fait, Jérôme Coppel.
Oui, oui, ça va sprinter au bout de 7 km. C'est pour ça qu'on aime bien faire des petits cartons. Le mien sera rouge, mon carton, à propos de ces mesures, justement. Mesurette, ouais, comme dit Romain. Parce que
c'est la première fois, juste Jérôme, je précise, c'est la première fois que le Tour est obligé d'adapter le parcours en raison des fortes chaleurs.
D'accord.
C'est la première fois.
Okay.
L'année dernière, on avait eu un rétrécissement d'étape en raison d'un
très bien.
Des changements d'étape en raison de tempête sur la route. On me rappelle l'étape de Tignes, ça c'était différent.
Je sais que c'est difficile pour les coureurs, c'est difficile pour les suiveurs, c'est difficile pour tout le monde. J'ai été au départ, j'ai pas entendu quasiment aucun coureur se plaindre de la chaleur. Mais c'est très bien de prendre des mesures. On est en zone rouge, attention, c'est les risques sanitaires, etc. Mais le but des mesures, c'est de protéger les coureurs ou les spectateurs.
Ou les spectateurs,
etc.
C'est pas que les coureurs.
Très bien. Mais les spectateurs, on va pas non plus aller les tenir par la main ou les enfermer chez eux pour pas qu'ils sortent ou aller leur distribuer des casquettes. Voilà. Ils vont prendre leur propre décision pour aller sur le bord des routes ou pas. Les coureurs, ils sont là, ils sont obligés de courir. Tu prends des mesures, le départ est à la même heure, 13h45, tu restes en pleine chaleur. T'arrives à la même heure, alors je comprends qu'il y a des contraintes, la télé, etc., etc. Ça ne doit pas être facile pour ASO de prendre des mesures, je ne sais pas s'il y en a des bonnes, mais tu pars à la même heure, t'arrives à la même heure, tu réduis de 30 km. Christian Prudhomme dit, oh, on réduit l'étape, Tadej Pogacar était très content. Tout le monde va être content, 30 km avec le niveau que les coureurs ont, tu réduis 40 minutes la course. Dire, je ne suis pas sûr que niveau santé, tu les mets dans une case plus safe. Et les quoi. Donc soit tu prends des vraies mesures, je ne sais pas si c'est possible de nouveau, mais soit tu prends des vraies mesures, le départ plus tôt, plus tard, j'en sais rien, mais qui ont vraiment protégé les coureurs. Pour moi, ça, c'est une mesurette, c'est pour dire d'avoir fait quelque chose. C'est un coup de com' parce que tu dois faire quelque chose pour donner l'impression que tu protèges les coureurs. Mais qu'est-ce qui est dur dans le vélo? Qu'est-ce qui est dur avec la chaleur? Bah, c'est d'être en plein soleil dans les heures les plus dures de la journée. Bah, ça, il n'y a rien qu'à changer. Tu pars à la même heure, c'est toujours pareil.
Jérôme.
C'est toujours, et encore une fois, d'accord avec Gégé, parce que plutôt que de faire partir les coureurs à Malemort à 13h45 pour faire 37 km et quasiment attaquer, allez, on va dire, la vraie première bosse, parce que c'est assez difficile demain au bout de 30 bornes, bah là, on va les faire partir au pied une heure après, donc il fera encore plus chaud, et en plein cagnard au pied d'une bosse. Pour la santé, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. La deuxième des choses, c'est qu'une heure en plus, une heure en moins, ça ne change pas terriblement le côté santé
c'est
non plus pour les spectateurs. Parce que les spectateurs, s'ils veulent y aller, ça ne passe pas dans leur village, ils vont prendre la voiture, ils vont aller plus loin. Donc c'est vrai qu'il faut protéger les coureurs, il faut protéger leur santé, mais malgré tout, je ne sais pas quelle décision il faut prendre, mais celle-ci paraît un peu très... politiquement correct, on va dire. Mais le préfet a demandé qu'on fasse quelque chose, on le fait, mais ça protège ni les uns ni les autres. Je voulais aussi revenir sur quelque chose tout à l'heure dans le direct. J'ai parlé d'une étape à 1000 mètres. Bon, effectivement, vous avez dû bien vous foutre de moi parce que je m'étais trompé d'étape. Mais l'étape allait.
J'ai pas bien vu les...
L'étape allait. Non, c'est Aurillac-le-Lioran qui est toujours à 900 1000 mètres. Là, on va plutôt être autour de 600, 700, 800 mètres, ce qui n'est pas bas non plus. Mais ça, c'est au bout de 90 bornes. À la limite. Partons au bout de 90 bornes, faisons une étape très courte parce qu'on est plus haut, parce qu'il fait moins chaud. Mais là, la décision, je ne la comprends pas.
La, pour revenir là-dessus et terminer là-dessus, moi je trouverais que ce serait mieux pour les coureurs et leur sécurité, typiquement, d'ouvrir le ravitaillement du kilomètre zéro à la fin, qu'ils puissent se ravitailler quand ils veulent. J'ai vu des directeurs sportifs dire, notamment de Movistar, qui courent dans les stations essence un peu de partout pour essayer de trouver des glaçons, de l'eau, etc. Et ben que ASO, que je ne sais pas qui, essaye d'apporter aux équipes la matière pour que les coureurs puissent s'hydrater d'une manière plus facile. Ça, c'est protéger les coureurs.
ASO peut le faire. Hein. ASO peut activer, par exemple, un camion brumisateur, un deuxième camion,
voilà.
Activer une troisième.
Alors ça serait un vrai effet où tu décales le départ, où tu la rabotes vraiment comme il faut, cette étape, puisqu'il fait très chaud, bah, voilà, tu fais les 50 derniers kills, les 60 derniers kills, j'en sais rien. Mais là, finalement, pour la sécurité même des coureurs, il n'y a rien qui change.
Ouais, alors moi, je lance un appel à toutes les marques qui sont sur le Tour de France, dans la carabelle publicitaire. Ils nous distribuent souvent des goodies qui n'ont aucun intérêt. Pourquoi pas l'année prochaine lancer ventilateurs ou des parasols,
des bobs, des casquettes
ou des glaces, voilà, glaces. Ça pourrait être une idée, quoi. Oui, il y a des casquettes et des bobs.
Ce garçon aussi lancer des climatiseurs mobiles.
Non, mais regarde ça, un petit ventilateur, regarde comme ça marche bien, ça. Bah, c'est pas une bonne idée, ça.
Je te signale que ça a évolué puisqu'il y a une marque qui donne des éventails.
C'est vrai, exactement.
Oui.
J'en ai un dans
ma valise. On en a eu hier d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai que c'est utile dans la valise.
Oui, mais dans mon
sac. Tu remues la valise pour te faire de l'air. Les décisions d'ASO, les prises de décision par rapport à cette chaleur, on verra demain si y a des conséquences aussi sur la course d'un point de vue sportif, donc avec ce sprint qui arrivera au bout de 7 km. Mais c'est vrai que c'est...
Oui, Jérôme. Ben, le sprint, par exemple, pour un Team Merlire qu'on vient d'entendre, ce sprint intermédiaire, s'il était comme prévu au bout de 40 km ou là au bout de 7 km, c'est pas pareil. Vie, ouais. Pour lui, ça change beaucoup de choses, par exemple. Et du coup, par effet ricochet, pour Mats Pedersen aussi, qui était... On n'est jamais sûr qu'il allait être dans l'échappée, qu'il allait prendre les points, mais il avait plus de chances de prendre des points face à Team Merlire si le sprint était au bout de 40 km.
Donne-nous une petite photographie de cette étape de demain entre Malmort et Ussel, Jérôme.
Bon, tu t'en veux une simple ? Ça monte, ça descend, pas un mètre de plat. Voilà, moins 30 km, bien sûr, attention, hein, moins 30 km, ça, c'est important. Et bah, après le défilé et le départ réel donné, donc au bout de 7 km, le sprint intermédiaire qui sera en bosse, hein, au milieu d'une bosse, ce ne sera pas un sprint intermédiaire vraiment plat. Après, ça monte, ça descend, on prend souvent cette expression, il n'y a pas un mètre de plat, mais pour le coup, c'est vrai, et pour bien connaître la Corrèze, l'asphalte n'est pas très bon, ça ne rend pas trop, ça monte, ça descend, et on aura 4 difficultés. Deux de troisième catégorie, une de deuxième catégorie et la dernière située à 20 km de l'arrivée, une côte de quatrième catégorie. Alors ça va être une rampe, hein. C'est 900 mètres à 7%, mais on n'est qu'à 20 km de l'arrivée. Ça pourrait permettre à des coureurs éventuellement de faire la différence ici et de terminer en solitaire parce qu'après cette dernière difficulté, le profil sera globalement descendant jusqu'à Ussel. Donc on n'aura plus que 155 km de course entre Malmort et Ussel demain.
Jérôme Pinault, on sera au cœur du parc naturel régional de Mille Vaches en Limousin. C'est pas là-dessus que je te lance, hein, mais c'est le tour du Limousin passe souvent par là. Ce sont des routes que tu connais bien.
Ouais, c'est des routes que je connais bien. J'ai participé souvent.
T'as été formé à Limoges.
Mais tous les coureurs le connaissent. Puis oui, exactement. Pour avoir été à Limoges pendant 2 ans, je connais bien la région. Je me rappelle de Bernard Bourroux qui nous disait, les gars, quand vous ferez le tour du Limousin, pensez à ça. Le tour du Limousin, c'est un ruisseau, une antenne. Un ruisseau, une antenne. Tu ne fais que redescendre en bas le long de la rivière pour remonter vers une antenne téléphonique, ou etc. C'est très, très dur, ces étapes-là. Ces étapes-là, je vais pas vous dire que ça vaut des étapes de haute montagne, mais en termes de fatigue, c'est quasiment une étape de haute montagne parce qu'on est en prise tout le temps. C'est jamais droit, il n'y a jamais de ligne droite, on ne peut pas souffler. Il faut toujours se replacer. C'est assez dangereux, assez technique. C'est des étapes épuisantes. Alors 30 km de moins, certes, mais ça n'empêchera pas les coureurs d'être demain avec un bon coup dans la carlingue. Et ce sera forcément, comme le dit Gégé, un moelleux qui s'imposera à Ussel.
Jérôme, un Français peut s'imposer demain, ça va bagarrer ferme pour être dans la échappée. On pouvait penser qu'un Romain Grégoire en pleine forme, ça pouvait l'intéresser. On verra comment il s'est remis.
Oui, alors c'est un profil qui lui convient bien, hein, normalement, à Romain Grégoire, à voir s'il décide de se lancer dans l'échappée. Alors avec le nouveau parcours, on est tout de suite dans une difficulté, mais après, ça devrait l'échapper. pourrait se faire plus rapidement que si ça avait été le profil initial, parce qu'on va très vite arriver dans les difficultés. Et là, les plus costauds et les moins cramés, ça fait quand même 10 jours que les coureurs sont sur la route, vont pouvoir s'extirper un peu plus facilement, mais on ne devrait pas voir une échappée avec un ou deux coureurs. Demain, on risque d'avoir un gros groupe. Et niveau français, bah, Kevin Vauclin, s'il a retrouvé ses jambes, Romain Grégoire, bien sûr, on a des bonnes cartes sur ce profil-là.
Est-ce que ça peut tenter des grimpeurs, puisqu'il n'y aura pas d'étape de montagne? Si, il y aura le Durand, remarque. Qui va arriver très rapidement.
Mais Martinez,
ça ne va pas se bagarrer pour les poids du meilleur grimpeur.
Il n'y a pas énormément de points, en fait, Christophe. Alex ça Baudin. Fait beaucoup d'énergie pour peu de points. Quoi.
C'est les 3 et
Alex Baudin, c'est un bon profil. Par contre, il y a aussi beaucoup de coureurs qui vont y aller peut-être un peu plus franco que ces derniers jours, parce que le lendemain, c'est étape de repos. Donc, tu sais que tu peux en laisser un peu plus sur la route et que lundi, tu pourras te reposer un petit peu. Ou à l'inverse, il y a peut-être des coureurs qui vont se dire bah, j'en garde encore un peu sous le pied. Le 14 juillet arrive, notamment les Français. On veut faire un feu d'artifice après la journée de repos.
La dernière partie de l'After Tour, le sprint final avec les auditeurs de RMC Sport, de 100% route, de l'After. Et c'est Jonathan qui est en notre compagnie. Bonsoir Jonathan.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Jonathan, salut, je crois Jonathan. Que tu as vécu une bonsoir. Belle journée.
Salut,
puisque tu étais sur les routes du Tour, tu étais au sein de cette course elle-même. Raconte-nous un peu ta journée. Et puis, tu as avec toi les deux GG, Jérôme Coppel et Jérôme Pinault, si tu veux leur poser des questions.
Et c'est parfait. Bonjour à tous. Bonjour de Jérôme, du coup. Oui, c'est la première fois que je faisais ça depuis très longtemps, vraiment en inside. Et mais ça m'a encore plus impressionné qu'hier le sprint. Et il y a un petit truc qui m'a marqué, je suis entièrement d'accord pourtant avec Jérôme Pinault notamment sur le fait que Sexas doit être autour. Et, désolé, je parle de Sexas, alors ça n'a rien à voir avec le sprint du jour. Mais,
t'inquiète.
Mais ce matin, ça m'a vraiment marqué, j'étais vraiment à la présentation, j'étais vraiment là au milieu de tout le monde. Je l'ai trouvé hyper fermé, j'ai trouvé que c'est le coureur qui avait la pression. Et je me suis dit, moi je suis totalement pour le fait qu'il fasse le tour jeune, il est prêt, pour moi il est prêt, j'espère qu'il va faire 2 ou 3, enfin, il est là, c'est un très bon choix qu'il fasse le tour, mais là j'ai eu un ressenti un peu spécial, tu croises Evenepoel, tout le monde s'en fout, tu croises plein de coureurs, des grandes stars, tout le monde s'en fiche, et Sexas, il y a une attente autour de Paul Sexas, et lui, il avait son petit masque là, contre les maladies sûrement, enfin, il avait son petit masque avant le départ, il est très très refermé, il regarde pas, qui ne regarde pas les gens, je comprends, hein, c'est d'autres hyper dur à gérer, mais je me suis dit, mais ça, c'est terrible, enfin, je me suis vraiment dit, c'est terrible, ça, si vraiment il fait le tour qu'on espère tous, si vraiment il fait 2, 3, même top 5, il faudra vraiment, vraiment en parler, vraiment lui tirer un coup de chapeau. J'avais oublié, moi, que le tour, il y avait autant de pression sur le tour, j'avais oublié que c'était une machine à laver, vous en parlez très souvent, mais j'avais oublié que c'était à ce point-là, quoi. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'a marqué, le sprint après, enfin, on pourra en parler après si vous voulez, vous en avez déjà beaucoup parlé, ou Merlier, et qu'il faut plus fort que tout le monde. Mais moi, ce matin, vraiment, Sexas, un petit sujet là-dessus, je trouve que c'est très dur. Très, très dur ce qu'il vit. C'est gérer ça, bravo. J'espère vraiment que le tour va se lancer pour lui. J'espère vraiment qu'il va vite prendre sa place. Dans le Tourmalet, il se fait bouger par Evenepoel. Enfin voilà, j'espère vraiment qu'il va se faire respecter, qu'il va gagner un peu en tranquillité. Parce que on est tous impatients, mais ça se voit, quoi. Les spectateurs, le public, la presse, tout le monde, c'est très dur. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous le trouvez plus renfermé que d'habitude, vous qui voyez tous les jours. Mais je trouve qu'il a perdu un petit peu la légèreté qu'il avait l'année dernière ou en début de saison, quoi. Enfin, voilà, c'était mon impression un petit peu comme ça ce matin.
Jérôme Coppel, votre...
Ouais, je pense que tu as raison, Jonathan, mais il a perdu un petit peu, c'est pas sa joie de vivre, mais son innocence un petit peu, parce que tu es sur le Tour de France. Et là, d'un coup, il se rend compte, bah, justement, comme tu l'as dit, de l'attente du public, etc. Pour l'avoir vu au Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, bah, tu as moins de pression, tu as très peu de spectateurs, tu arrives 20 minutes avant le départ pour aller signer ta feuille de départ, tu peux aller te placer tranquillement sur la ligne de départ, là il y a tout qui est millimétré, tu as ton heure pour aller à la présentation, etc. Et toute l'attente du public, des médias, etc. Il est très concentré. Paul Sexas, dans la vie de tous les jours, beaucoup disent, il est un peu sur sa planète, sauf quand il monte sur son vélo. Quand il monte sur son vélo, c'est vraiment concentration maximum, et là tu es au Tour de France. Une étape comme aujourd'hui, je pense qu'il a plus la pression aujourd'hui d'éviter la chute, d'éviter les cassures, qu'une grosse étape de montagne où où c'est à la pédale que ça va se faire. Mais là, c'est pour ça que moi, j'étais partisan qu'il fasse le tour le plus tôt possible. Comme tu l'as dit, il était prêt. Mais justement, pour pouvoir se rendre compte de tout ça, pour que le jour où il va revenir sur le tour dans la peau du favori, qu'il n'ait plus à découvrir tout ça. Parce que le Tour de France ne ressemble à aucune autre course et ça part du moment où tu quittes ta chambre d'hôtel jusqu'à ce que tu y retournes le soir à l'hôtel suivant. Dans le bus, l'ambiance est différente des autres courses. Au départ, tu l'as dit, le long de la route aussi avec tous les spectateurs. Donc voilà, il se rend compte vraiment de ce qu'est le Tour de France. Il est en train d'en prendre la mesure et je pense que lui attend avec impatience, contrairement à beaucoup d'autres du peloton, il attend avec impatience la dernière semaine du Tour. D'une, parce qu'il sera chez lui, pas loin de la maison. Et deux, il sera vraiment sur des routes qu'il connaît parfaitement et qui lui conviennent bien.
Jérôme Pinault, c'est très intéressant ce que nous dit Jonathan sur son impression ce matin au départ, sur ce visage un peu fermé de Paul Sexas, sur ce masque aussi qu'il est obligé de porter. Ce sont des contraintes malgré tout. Jérôme Coppel disait à l'instant, il est bien quand il est sur son vélo, mais il y a tout ça à vivre avant. Est-ce que ça t'inquiète un petit peu à l'entrée de la deuxième semaine?
Non, ça ne m'inquiète pas. Ça me rassure. On sait que déjà, pour le masque, chez Decathlon, CMA, CGM, il y a un petit virus qui traîne et on ne veut pas se faire prendre au piège et on ne veut pas que Paul, évidemment, soit infecté. Et on veut arrêter, s'il y a propagation, le plus vite possible. Donc, logique de se protéger au niveau du masque. Et puis, qu'il soit fermé, concentré, ça fait maintenant 5 jours de course, mais ça fait quasiment une semaine qu'il est dans le Tour et donc une semaine avec la préparation premières étapes, avec cette pression, avec ce flux médiatique, ce besoin de répondre à énormément d'interviews. Il doit évidemment être sur les réseaux, on lui en demande beaucoup. Et donc, voilà, il doit voir que tout cela commence à fatiguer. Donc, il se préserve de cela et puis il est concentré. Il faut garder son énergie, il fait très chaud. Il a eu très peur lors du premier sprint à Pau. Donc, il se concentre un peu plus peut-être sur des étapes comme celle-ci pour ne pas avoir à prendre de risques et puis les jours avancent et on arrive très proche de la première journée de repos avec demain une étape un peu difficile et donc il est concentré et c'est assez logique qu'il soit un peu moins décontracté et détendu comme il a pu l'être sur certaines courses en début de saison. Il prend de plein face l'ampleur et l'importance du Tour et c'est aussi pour ça que je voulais qu'il y participe dès cette année parce que c'est des choses qu'on doit appréhender, qu'on doit apprivoiser et une fois qu'il l'aura fait une fois, il saura et il gérera peut-être encore un peu mieux même si je trouve qu'il le gère déjà très très bien.
Jonathan, tu as donc vécu le départ et après tu es allé directement à l'arrivée ou tu as fait vraiment toute la route de la course?
Non, on a fait plusieurs points aujourd'hui, c'était bien, c'était hyper pratique aujourd'hui avec ce forme de U là qu'on faisait. Donc j'ai pu les voir en plusieurs endroits et puis bon, en plus c'est vrai que l'étape s'y prêtait et l'échappée vraiment c'était assez tranquille, on pouvait assez facilement couper. Et après du coup on a vu l'arrivée dans des très bonnes conditions et par rapport à Bordeaux hier où j'ai un peu moins vu le sprint et là c'est vrai que c'était un sprint limpide. Alors, désolé, je suis sur la route du retour donc je n'ai pas tout écouté, mais par contre ce que j'ai un petit peu raté, je ne sais pas si vous en avez parlé parce qu'hier à Bordeaux ça m'a aussi impressionné. J'ai l'impression que Philipsen est pas à son niveau. Bon, ça on le sentait un petit peu, ça fait quelques mois qu'il est quand même moins bien. Mais est-ce que je voulais vous poser une question. Est-ce que Van der Poel, enfin est-ce qu'ils en parlent dans la presse ou est-ce que Van der Poel lance pas un peu trop, enfin va pas un peu trop vite quand même quoi, lance pas un peu trop fort quand même quoi. J'ai l'impression que dans la roue, enfin c'est bien d'avoir une grande star qui te lance les sprints, c'est fabuleux, ça marchait l'année dernière. Mais bon, là, quand même, quand il s'écarte, il en fait trop. Non, enfin, je trouve que Philippe Seyss est tellement à fond dans la roue que le pauvre, il est moins fort que l'année dernière, c'est sûr, mais c'est un peu la qualité des défauts d'avoir un mec aussi fort qui te lance un sprint, non? Enfin, je sais pas ce que t'en penses.
C'est ça. Aujourd'hui, t'as raison, parce que quand Mathieu Van Der Poel le lance, il prend presque une petite cassure, Philipsen. Tu sens qu'il est vraiment à bloc, quoi. Donc, quand Philipsen est au top de sa forme, comme il l'était ces dernières années, Mathieu Van Der Poel, c'est son lanceur parfait, parce que ils arrivent à bien rester roue dans roue et à décoller presque les autres derrière. Mais quand t'as quelques pourcentages de forme en moins, comme à Philipsen cette année, et que Mathieu Van Der Poel a la giclette qu'il a, en fait, il te met dans le rouge avant même que tu lances le sprint quoi. Donc il y aura peut-être aussi on verra dès demain, Jasper Philipsen ne devrait pas passer demain, mais par contre Mathieu Van Der Poel aujourd'hui m'a fait plus forte impression sur la manière dont il a lancé son sprint, le sprint de Philipsen, qu'hier. Donc peut-être qu'on va retrouver un peu du très bon Mathieu Van Der Poel et peut-être dès demain.
Voilà, c'est la fin de l'After Tour. Merci beaucoup, Jérôme Coppel. Il nous reste une petite minute. La question habituelle. Merci à Jonathan, notre auditeur qui était en notre compagnie. La question habituelle, c'est votre favori pour demain. Un nom, un garçon qui lève les mains entre Malemort et Ussel avec cette étape donc, qui est coupée de 30 km. On va commencer par toi, Jérôme Pinault, parce que je vois bien que Jérôme Coppel erre un peu dans la start list là, pour chercher son vainqueur demain.
Eh ben, j'hésite entre deux coureurs, un Français et un Américain. J'hésite entre Alex Baudin et Quinn Simons, mais je vais dire Quinn Simons.
Pas mal. Quinn Simons avec son maillot de champion des États-Unis. Et Jérôme Coppel ?
Je vais dire Van Gils de Red Bull Bora.
Très bien. Maxime Van Gils.
Tout à fait.
Parfait. On verra demain qui a été le meilleur pronostiqueur ou si vous êtes planté une nouvelle fois.
On vise une échappée en tout cas.
Oui, exactement.
Voilà, c'est exactement. Jérôme et moi, on est parti sur une victoire de baroudage.
Ah oui, là, on Merci. Est parti sur baroudage.
Baroudage pour demain du côté de la Corrèze. Merci à tous les deux. Merci Christophe Cessieux. Merci à toute l'équipe. Romain derrière les manettes. Roxane à la production. L'After Tour, c'est terminé. On se retrouve demain. Ciao.
RMC. L'After Tour.